Communiquer, c'est pour moi deux sens et deux organes. Alors c'est un tout petit peu plus que ça, mais j'ai décidé de développer ma présentation autour de ces deux sens et deux organes. Donc c'est l'oreille, c'est la façon dont on écoute les personnes. C'est aussi ce que l'on dit et la qualité de ce que l'on dit. C'est aussi ce que l'on ressent émotionnellement et ce que l'on ressent dans sa tête. C'est bien évidemment plus que ça, puisqu'il va y avoir aussi tout ce que vous communiquez par le non-verbal directement dans votre corps, mais essentiellement ça va tourner autour de ces deux sens et de ces deux organes. Est-ce qu'on écoute vraiment ? Ça, c'est vraiment une question que je veux vous poser. Est-ce que vous avez le sentiment au quotidien, quand on vous parle, d'être toujours à 100% dans l'écoute active vis-à-vis des personnes qui vous parlent ? Je pense que bien souvent on est ailleurs, on est parfois préoccupé par ce qu'on a dans sa propre tête ou ce qu'on a dans son propre cœur. Je pense qu'on n'est pas complètement toujours à 100% dans la relation avec la personne qui est en face de vous. Ce que je vais vous encourager pour avoir vraiment une vraie qualité de relation et une vraie qualité d'échange avec les autres, c'est au moment où vous avez décidé d'écouter la personne, de vraiment vous mettre en posture d'écoute active. Pour moi, l'écoute active, c'est vraiment questionner la personne pour essayer de comprendre ce qu'elle est en train de dire, reformuler, synthétiser, rester concentré. On fait pas 10 choses en même temps, on va pas faire autre chose, on n'est pas en train de penser à autre chose, on est vraiment concentré sur ce que la personne est en train de nous dire. On fait silence parce que souvent on a l'habitude de couper les personnes et donc ça les empêche en fait d'aller plus loin dans la réflexion qu'ils peuvent avoir. Et quelque part, le fait de parler, ce n'est pas de l'écoute active puisqu'en fait c'est son schéma à soi qu'on plaque sur l'autre. Observez le langage corporel, il y a 80% des choses que les gens ne disent pas, que vous pouvez décrypter à travers leur non-verbal. Écoutez les émotions, qu'est-ce qui se cache en termes d'émotions dans ce que la personne est en train de vous dire. Montrez de l'empathie, on verra tout à l'heure ce que c'est de l'empathie, mais nous sommes dotés d'une certaine empathie, on peut très bien la travailler. Et manifestez de l'intérêt pour la personne en face. C'est ça une vraie écoute active. S'il manque une de ces composantes, vous n'êtes pas en vraie écoute active vis-à-vis de la personne d'en face. Et pour créer une vraie relation qui passe par l'écoute, il faut être dans une posture d'écoute active. La valeur des choses et la valeur des mots, elle est très fonction de ce qu'on a appris ou de ce qu'on a vécu. En coaching, on dit que la carte du monde est différente les uns des autres. C'est-à-dire que votre façon de voir les choses n'est pas la façon de voir les choses de la personne qui est en train de vous parler. Donc si vous n'êtes pas dans une écoute active, vous allez passer en partie à côté de la carte du monde de la personne qui est en train de vous parler. Il est intéressant de pouvoir s'enrichir, d'écouter, de comprendre la position de la personne d'en face. Ça permet aussi d'enrichir sa propre carte du monde. C'est ce que je vous disais, moi en coaching, j'enrichis ma carte du monde puisque j'apprends des façons de voir différentes, des façons de se comporter différentes. Et ça enrichit ma carte du monde. Finalement, quand on est dans une écoute active, qu'est-ce qu'on fait ? On agrandit notre propre carte du monde. Ça passe aussi par la bouche. Que votre parole soit impeccable. Vous avez déjà tout entendu ça, vous l'avez déjà lu, 4 Alcor Toltec. C'est vraiment important d'avoir une parole impeccable. Combien de fois j'entends des gens me raconter ce qu'ils ont dit à leur conjoint ou à leur famille ou à leurs enfants, et je ne peux pas m'empêcher de me dire que les paroles qui ont été dites sont des paroles qui sont terribles et qu'on n'aurait sûrement pas dit de telles paroles à des personnes qu'on ne connaissait pas. Remettez-vous vraiment dans ce contexte-là. Parfois, parce que les gens nous sont très proches, on s'autorise à utiliser des paroles qui ne sont pas impeccables. Quand on communique, il faut vraiment revenir à quelque chose de très propre et avec des mots qui sont des mots qui seront appréciés par la personne en face de vous. Vous êtes en capacité de dire des choses importantes sans que ça sorte avec des paroles qui sont vraiment difficiles à entendre. Parfois, une partie de la rupture de communication que vous pouvez avoir avec la personne en face, c'est parce que la personne a entendu des paroles qui lui sont insupportables, que vous n'avez pas forcément dit méchamment, mais qui lui sont insupportables, et ça rompt la communication avec la personne en face. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est améliorer ses relations. Et pour améliorer ses relations, il faut avoir une parole impeccable. Ensuite, il y a tout le schéma des émotions. On n'est pas identique sur notre capacité à mesurer nos émotions, à décrypter nos émotions, à mettre un mot sur une émotion. Il faut vraiment travailler ça parce que ça va vous aider dans vos relations avec les autres. Essayez de comprendre lorsque vous avez été embêté par quelqu'un, par des mots de quelqu'un. Essayez de comprendre ce que ça a touché chez vous en termes d'émotion. L'émotion, elle dit un besoin. Derrière une émotion de colère, vous avez forcément derrière un besoin qui s'exprime. Donc je vous ai remis les besoins de Maslow, que la plupart d'entre vous connaissent puisque on en parle assez régulièrement. Les besoins sont d'abord les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, il y a aussi celui de se reproduire. Il y a la partie sécurité, donc se loger dans une maison qui vous protège, d'être protégé de manière générale, d'avoir suffisamment d'argent pour vous mettre à l'abri d'un certain nombre de besoins. Appartenance, c'est-à-dire avoir des amis, une famille, faire partie d'un groupe social, être reconnu par les autres et donc que les autres aient de l'estime pour vous. Et ensuite, l'accomplissement de soi, c'est-à-dire toutes les réalisations personnelles, tout ce qui vous épanouit dans la vie. L'émotion, chaque fois que vous la ressentez, elle a touché quelque chose de l'ordre du besoin. Donc, il est essentiel que vous fassiez une introspection, à l'intérieur de vous-même pour savoir qu'est-ce que ça a touché comme besoin chez vous. Vous verrez, ça va nous servir tout à l'heure. L'émotion négative, ça dit aussi une valeur bafouée. Parfois, quand on a contraint nos libertés, on a une réaction qui est épidermique. C'est parce que votre valeur de liberté a été contrainte. Parfois, quand vos enfants se mettent en colère parce que vous leur avez demandé de ranger des choses, c'est aussi parce que l'organisation chez vous est cadrante et leur valeur à eux d'organisation qui n'est peut-être pas au diapason vient d'être touchée. Il y a aussi tout ce qui est justice, c'est quelque chose qui revient beaucoup, un vrai besoin de justice et une vraie valeur de justice. Il faut absolument que vous ayez cette habitude d'essayer de chercher ce que ça a généré en vous. Au début, c'est pas forcément très facile d'aller faire de l'introspection. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec leurs émotions que d'autres. Mais je vous encourage à vraiment aller chercher ce que ça a titillé chez vous, ce que ça a bafoué chez vous dans les paroles qui ont été dites. Deux qualités humaines à développer pour moi, à mon sens, c'est deux qualités essentielles pour avoir une bonne communication. L'assertivité, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de dire qui est pour vous votre vrai besoin, de défendre vos droits, mais sans empiéter sur les droits et les besoins des autres. Et l'empathie, c'est votre capacité à vous identifier à autrui dans ce qu'il ressent, c'est-à-dire dans ses propres émotions. Qu'a-t-il ressenti quand je lui ai dit ? Est-ce que je suis capable de ressentir cette émotion-là ? Est-ce qu'elle aurait généré la même émotion chez moi ? Ça, c'est de l'empathie. Ensuite, on va se promener au niveau du cerveau. Ne réagissez jamais à chaud. Quand vous êtes en colère, ne réagissez pas tout de suite. Elle est extrêmement mauvaise conseillère. Il y a d'ailleurs une citation qui dit que la colère est mauvaise conseillère. C'est extrêmement vrai. Donc différez si vous êtes en colère, si vous ressentez quelque chose du domaine de la colère. Différez l'échange avec la personne. On peut toujours revenir a posteriori avec la personne, réévoquer, on le verra tout à l'heure, ce qui n'a pas fonctionné. Mais ne réagissez pas à chaud, c'est vraiment le moins bon moment pour pouvoir le faire. Il faut d'abord que cette émotion, vous en soyez débarrassé pour pouvoir passer à l'étape plus sereine de l'échange et de la communication pour que ça se reproduise plus, pour demander des choses, pour demander des changements. Vous ne pouvez pas le faire au moment de la colère, personne n'écoutera. Ça risque de mettre en colère la personne en face de vous et la communication, elle est rompue. Deux petites techniques et moi j'en ai une petite troisième qui est la mienne. Concentrez-vous sur votre respiration au moment où la colère arrive. Je parle essentiellement de la colère parce que c'est aussi finalement une émotion qui est beaucoup remontée lors des coachings, lorsqu'il y a eu une mauvaise interprétation dans la relation. C'est souvent la colère qui arrive en premier. C'est comme si on vous avait marché sur les pieds, eh bien vous êtes en colère parce qu'on a finalement froissé une de vos valeurs ou on a bafoué un de vos besoins. Concentrez-vous sur votre respiration. Donc, on inspire sur 4 temps, on expire sur 8 temps. Il est essentiel que vous vidiez toute l'air que vous aviez dans votre cage thoracique. Cela permet de réduire et de réguler le flux de la vitesse du cœur et du stress. Vous avez une autre solution, c'est aussi de pincer la partie molle et souple de votre main entre le pouce et l'index. Si vous appuyez à cet endroit-là, il y a un point d'acupression qui permet de libérer les endorphines et de détendre. Donc c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir souffler un petit peu. Et moi j'ai une troisième technique, c'est qu'en fait je fais un espèce de switch mental. C'est-à-dire qu'au moment où je sens que la colère va venir, je me dis c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, j'arrive à bloquer finalement ce moment où la colère est en train de monter, et finalement je passe à autre chose, je vais faire autre chose, et je reviendrai par la suite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on verra ça tout à l'heure sur les outils que je vous propose. Je reviens plus tard, quand la colère n'est plus là. Mais le fait de pouvoir l'arrêter net, très rapidement, ça fait qu'elle prend pas des proportions folles. Vous avez pas le cœur qui se met à battre très fort. Vous avez pas une chaleur qui monte. Ça vous permet vraiment de rester le plus zen possible. Ça permet vraiment de se calmer. La collection de timbres. C'est quoi un timbre? C'est quand finalement vous laissez passer quelque chose. Quelqu'un fait quelque chose qui ne vous convient pas et finalement vous vous dites bon, je lui dis pas ou je lui dirai plus tard ou Je le fais pas tout de suite. Mais en fait, c'est pas neutre parce que vous n'avez pas oublié ce qui a été fait, vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer. Donc vous allez coller ce que moi j'appelle un timbre dans le petit carnet de timbres avec tous les timbres les uns à côté des autres. Vous allez continuer comme ça. La fois d'après, quand il y a quelque chose qui vous convient pas, vous n'allez pas le dire non plus. C'est pas la peine qu'on s'embrouille pour un tout petit truc. Et vous allez coller un deuxième, un troisième, un quatrième timbre comme ça. Et puis un jour, la personne va faire un tout petit truc, vraiment quelque chose de dérisoire. Et parce que vous avez cumulé un certain nombre de, entre guillemets, rancœurs qui n'ont pas été déposées, vous allez vous retrouver d'un seul coup à exploser. Donc la personne ne va pas comprendre parce qu'en fait, la façon dont vous avez réagi est extrêmement disproportionnée par rapport à la dernière petite chose qu'elle a faite. Et lui ne sait pas que vous avez collé des timbres pendant des semaines. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de déposer vos timbres au fur et à mesure, c'est-à-dire alors pas pour des petites broutilles qui peuvent passer inaperçues et dont vous avez pu vous départir assez facilement, mais des petites choses qui sont du domaine un peu de la rancœur et vous allez sentir quand finalement la relation elle est pas complètement neutre, elle est pas complètement équilibrée, il y a un truc qui vous va pas, allez rediscuter de ce timbre, même si c'est après, mais décollez ce timbre de la collection de timbres pour pas les accumuler les uns après les autres. Donc passons à l'action maintenant dans la relation. Vous avez un certain nombre de petites choses que l'on peut faire au quotidien pour avoir ou pour maintenir une bonne relation avec les autres. Sachez que l'autre a une intention positive quand il fait quelque chose ou quand il dit quelque chose. Alors parfois ça peut être compliqué quand on est dans le camp opposé de se dire il a une intention positive quand il m'a dit ce truc là, moi vraiment je vois pas quoi. Ben là aussi c'est de l'ordre de la carte mentale. Sa façon de voir les choses n'est pas la vôtre, son intention n'était pas la vôtre, et c'est là où l'empathie joue un grand rôle de se dire, ben, à ce moment-là, quelle pouvait être son intention positive, et si vous ne la trouvez pas, de dire, ben, quand tu m'as dit ça, au-delà de la façon ou la forme que ça a pris, c'était quoi ton intention positive quand tu me l'as dit? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu attendais de moi dans ce moment-là? Rien que déjà re-questionner les choses, ça vous permet d'avoir de l'information sur l'intention de la personne. Intéressez-vous sincèrement aux autres, que ça soit dans des relations, j'allais dire familiales ou des relations extérieures. Prenez du temps pour les autres. Quand on est en train d'échanger avec quelqu'un, on est tous avec nos smartphones, avec nos notifications, avec on est sur l'ordinateur, on n'est pas forcément dans la relation à l'autre. Essayez de revenir dans l'instant présent, de déposer les choses si vous avez besoin de discuter et d'être dans l'instant présent avec la personne, de vraiment prendre le temps. Parfois on dit je dois rappeler quelqu'un, bah oui, faut que je la rappelle et on n'est pas dans l'instant présent. Ben non, choisissez le moment qui est le meilleur pour vous pour être dans cette relation avec la personne. C'est vraiment une bulle qu'on se crée de communication avec l'autre. C'est pas des choses qu'on fait sans y penser. J'aimerais bien que vous essayiez une chose pendant 24 heures, c'est de voir chaque fois que vous avez une interaction avec quelqu'un, quel est votre degré d'engagement dans cette relation. Est-ce que vous êtes en train de faire le ménage et finalement on vous pose la question, vous répondez presque sans y avoir pensé? Est-ce que vous prenez le temps de vous poser et d'échanger avec la personne qui vient vous poser une question? Quel est votre degré d'engagement là-dedans? Regardez ça bien, parce que souvent, on est très peu engagé dans les échanges, et finalement, avec les gens qui nous sont les plus proches, qui sont finalement les gens qu'on aime le plus. Vous allez parfois prendre plus de temps avec un patron, avec un collègue, dans une relation à deux vraiment d'engagement, plutôt que globalement avec votre famille, vos amis, qui finalement participent à votre quotidien, vous questionnent peut-être un peu plus souvent ou vous échangent avec vous un peu plus souvent. Mais cette qualité de relation-là, elle est essentielle pour avoir de bonnes relations. Et je crois que les premières personnes avec qui on doit essayer d'avoir des bonnes relations, c'est les gens avec qui on vit. C'est à eux qu'on doit apporter du temps quand ils en ont besoin. C'est les premiers par qui on devrait commencer. Et bien souvent, c'est un peu l'inverse. On est finalement, on a plus de temps de qualité avec les gens à l'extérieur que du temps de qualité avec les gens à l'intérieur. Respectez le point de vue de votre interlocuteur, c'est ce que je vous disais. On n'a pas la même carte mentale. Donc, sa façon de voir les choses est une façon de voir les choses. Je sais que parfois, c'est difficile quand vraiment la personne a été difficile avec vous. C'est compliqué de se dire « je vais respecter le point de vue de mon interlocuteur, je vais essayer de me mettre dans ses chaussures pour essayer de comprendre pourquoi il a eu ce point de vue, pourquoi il est intervenu comme ça, pourquoi il m'a parlé comme ça. » Mais c'est vraiment un moment où vous allez essayer de comprendre l'autre, et comprendre l'autre, c'est déjà un début de relation. Complimentez sincèrement les autres. Posez-vous aussi la question dans les prochaines 24 heures. Combien de fois vous complimentez les gens qui font partie de votre famille sur quelque chose qu'ils ont bien fait? Je crois que ça arrive très peu souvent. Si on n'a pas cette conscience-là de se dire « vraiment, je vais faire attention et tout ce que ma fille fait bien, je vais prendre le temps de lui dire. Quand mon mari m'aide à faire ça, je vais prendre le temps de lui dire que vraiment ça m'a fait plaisir qu'il m'aide parce que ça m'a fait gagner du temps. » Souvent on le fait pas parce qu'on est dans le quotidien, parce que ça va vite, parce que finalement c'est des gens qui font partie de votre famille. Donc quand ça fait partie de sa famille, on a tendance à se dire que ça fait partie de nous. Non, c'est pas tout à fait pareil, c'est aussi des individus qui ont besoin d'être complimentés sincèrement. Retenez le nom des personnes que vous rencontrez et le prénom des personnes que vous rencontrez. Alors là, on saute sur un truc un peu différent. Moi, je suis extrêmement mauvaise pour retenir les noms et les prénoms, il me faut du temps, il faut que je me les imprègne. Mais c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire parce que votre nom et votre prénom, c'est votre identité. Ça fait vraiment partie de ce que vous êtes. Et lorsque la personne en face de vous se souvient de votre prénom, se souvient de votre nom, vous avez le sentiment qu'il a pris, que vous prenez de l'importance pour lui. Que quelque part, vous êtes reconnu dans ce nom et ce prénom qui sort de la bouche de la personne en face de vous. Souvenez-vous deux ou trois fois de ce que, quand ça vous est déjà arrivé, que quelqu'un que vous connaissiez à peine se souvient de votre prénom et dise « Bon, tiens, Magali, à la prochaine, à bientôt, je suis contente de t'avoir rencontré. » Eh ben, ça vous fait du bien, parce que finalement, vous vous sentez reconnu, vous vous dites « La personne était dans l'échange qu'on a eu, il se souvient même de mon prénom, peut-être que dans une semaine ou dans 15 jours, quand on va se rencontrer, ben, peut-être qu'il se souviendra de mon nom aussi. » Ça fait partie de votre identité, donc faites pareil avec les autres. Essayons de se souvenir des prénoms et des noms, même si c'est pas toujours très facile de s'en souvenir. Souriez. On a démontré là il y a quelques années en fait qu'il existait dans notre cerveau ce qu'on appelle des neurones miroirs. Alors, ça sert à plein de choses, les neurones miroirs. Ça sert à l'apprentissage. Quand vous regardez quelqu'un faire quelque chose, vous apprenez en partie grâce à vos neurones miroirs. C'est pareil, un certain nombre de sportifs peuvent apprendre en partie des choses en regardant des vidéos sur internet de leur sport favori. Donc ces neurones miroirs là, ils permettent des connexions avec les personnes d'en face et finalement d'entrer un premier relationnel. Donc souriez, vous allez engager les autres à sourire aussi. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Toujours la même chose, on essaye de comprendre ce qu'ils sont, on essaye de comprendre leur parcours. Et globalement, on essaye d'avoir de l'information sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Cherchez des terrains d'entente quand il y a des conflits entre les uns et les autres. Essayez d'être force de proposition dans des choses qui pourraient être communément acceptées par les deux pour améliorer votre façon de fonctionner. Soyez honnête si vous avez commis une erreur, excusez-vous si besoin. Personne n'est parfait. Même si on connaît tout un tas, je vous montrerai tout à l'heure d'outils qui vous permettent d'avoir une meilleure communication avec les autres. Il y a aussi, de temps en temps, on est fatigué, de temps en temps, on est plus en colère que la moyenne, on ne sait pas arriver avec les techniques que je vous ai données tout à l'heure à se détendre. Derrière, ce qui se passe, c'est que vous allez exploser et finalement, vous allez vous dire « bah oui, mais finalement, tout ce que j'ai appris en relationnel, ça me sert à rien ». Si, ça vous sert, mais parfois, on n'est pas parfait. Et donc, comme on n'est pas parfait, de temps en temps, il faut savoir dire « là, j'ai dépassé les bornes, là, j'ai dit des choses qui sont sorties de ma bouche, ça n'aurait jamais dû », et vous excuser vis-à-vis de la personne si vraiment vous avez été trop bon. Le plus intelligent lâche le premier le conflit. Donc vous êtes là aujourd'hui, un dimanche, pour essayer d'améliorer vos relations avec les autres. Vous êtes la personne qui souhaite changer. Donc si vous souhaitez changer, lâchez l'affaire, lâchez prise. Lâchez le premier le conflit. Le conflit n'amène rien de bon. Il est plus facile de discuter et d'échanger de manière dépassionnée plutôt que d'être dans un conflit qui fait que la relation entre les deux est coupée et vous n'arriverez à rien. Observez le non-verbal. Il y a 80% de ce que je ne dis pas que vous pouvez voir dans mon non-verbal. La façon dont je bouge mes mains, la façon dont je lève les yeux au ciel. Toutes ces informations-là vous permettent de compléter votre vision. Le plus simple et le plus connu, c'est je te parle, mais en même temps je ferme les mains, les bras, et puis je regarde vers le bas, et puis en plus souvent j'ai les jambes serrées. Ça vous donne des indications sur le degré d'ouverture, ça vous donne de l'information sur ce que la personne reçoit. Si vous échangez avec elle pour lui dire des choses qui sont plus acceptables, assez naturellement, elle va ouvrir ses bras, elle va être plus joviale, elle va se mettre à sourire, elle va être plus détendue. Donc ça, vous arriverez à le percevoir. Si le conflit ne vient pas que de vous, il vient aussi de vous. Dans une relation, c'est pas 100% la faute de l'autre, c'est 50-50 la faute des deux. Donc ça veut dire que vous aussi, vous portez une partie de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ce n'est pas que la faute de l'autre qui est un vilain, un méchant, quelqu'un qui peut pas fonctionner avec vous. C'est aussi en partie ce que vous avez amené dans cette relation qui n'est pas la meilleure. Autant on ne peut pas complètement travailler sur le fonctionnement des autres, autant on peut bien travailler sur son fonctionnement en soi et on peut aussi évoluer. On peut aussi changer ses pratiques. Vous êtes là pour apprendre un certain nombre de clés. Donc, vous êtes là aussi pour finalement évoluer et devenir une meilleure version de vous-même, ce qui permettra de meilleures relations demain avec les gens qui sont en face de vous. Alors, les feedbacks, c'est les retours à une personne à propos d'une situation, un comportement ou quelque chose qui s'est échangé. Vous avez deux possibilités de le faire. Je m'attarde pas tellement sur la partie positive parce que c'est ce qui est le plus simple. On met en évidence ce qui marche bien pour pouvoir le renforcer. Et il y a la partie feedback négatif, c'est-à-dire qu'on doit dire quelque chose d'assez désagréable à quelqu'un, mais on le fait dans un cadre très précis qui est « ce n'est pas optimal et on veut s'améliorer ». Donc c'est vraiment pas un jugement, mais c'est sur des faits. C'est-à-dire qu'on le fait en tête-à-tête, on a besoin de personne pour se dire les choses qu'on a besoin de se dire. De manière très claire, vous verrez, tout à l'heure, on parle d'être plutôt sur les faits. C'est spécifique, c'est-à-dire qu'on est sur un sujet et on n'est pas dans le jugement. Donc, dès le moment où vous allez juger quelqu'un, vous allez fermer la communication avec cette personne. On est dur sur les problèmes, mais pas avec les personnes. On fait des feedbacks positifs beaucoup plus que des feedbacks négatifs. On est aujourd'hui dans une société qui est plutôt latine. On a tendance à dire ce qui fonctionne pas, mais on dit très peu ce qui fonctionne. Et en fait, pour arriver à rééquilibrer ce qui est positif, il faut en dire beaucoup plus que d'habitude. Donc n'hésitez pas avec votre mari, avec votre conjoint, avec vos enfants, de dire les choses 10 fois plus. Donc là, c'est 9 positifs pour un négatif. On n'en est pas à les compter, hein, soyons clairs. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire toujours des retours positifs. Votre message, quand le retour sera négatif, n'en sera que plus intéressant. Les feedbacks, ça se prépare. Donc ça veut dire qu'on peut arriver dans l'instantané à dire des choses. Par contre, moi je vous encourage plutôt à le différer parce que on est encore dans son émotion, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour être très clair et pour être vraiment sur des faits et pas sur des jugements. Donc je vous encourage à le différer d'une demi-journée ou d'une journée. Et ça se prépare un peu, on réfléchit à l'avance sur qu'est-ce qu'on voudra dire et comment on voudra le dire. 3 points de théorie sur la communication non violente, donc ça s'appelle la communication CNV, vous avez peut-être déjà dû entendre parler de ça. Le petit bonhomme de droite, alors on est d'accord, hein, c'est un homme, une femme, une personne avec un enfant, un ado, peu importe. La personne de droite a dit quelque chose à la personne ou a fait quelque chose en comportement à la personne de gauche, et donc la première des étapes pour la personne de gauche, c'est d'observer et dire les faits, mais que les faits, donc vraiment pas de jugement, on dit ce qui s'est passé objectivement. Ensuite, on dit ce que l'on a ressenti, quand la personne a fait ce comportement ou a fait ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'on a ressenti à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de soi. On dit son besoin et ensuite on a deux possibilités. Soit on propose à l'autre de faire quelque chose, mais le mieux c'est quand même de lui demander ce que lui pourrait faire. Quand on a des enfants jusqu'à préadolescents, c'est assez difficile. Il vaut mieux proposer à l'autre de faire les choses parce que sinon vous allez vite avoir un je sais pas ce que je pourrais faire. Non, je vois pas. Donc là, c'est mieux de proposer l'action d'amélioration. Par contre, dès que vous avez des gens qui sont plus âgés, ils sont tout à fait en capacité de vous proposer ce qu'ils vont faire pour que ça ne se reproduise pas par la suite. Je vous ai mis un petit exemple juste après. Ça n'est jamais arrivé à l'une d'entre nous, c'est évident. Donc votre fils a retourné sa chambre alors que vous veniez de la ranger le matin même. La colère passée, vous allez lui parler. Mathéo, tu as mis la pagaille dans ta chambre que je venais de finir de ranger ce matin. Donc ça, c'est vraiment l'effet objectif. Vous aviez rangé le matin et il a remis la pagaille depuis. Cela m'a mis très en colère. Donc ça, c'est ce que vous avez ressenti dans votre cœur. Et pourquoi ? Parce que je ne me suis pas sentie respectée. Effectivement, vous imaginez que ranger la chambre de votre fils, c'est déjà pas complètement à vous de le faire. Mais en plus, vous avez pris finalement le fait qu'il mette la pagaille comme de l'irrespect. J'aime que cette maison soit rangée et je ne veux pas y passer trop de temps, car je préférerais jouer avec toi plutôt que de ranger. Donc là, en plus, vous proposez quelque chose, c'est pas toujours le cas, mais là, vous pouvez proposer plutôt de jouer que de perdre du temps à ranger une nouvelle fois. Est-ce que tu serais d'accord pour faire attention à l'état de ta chambre à l'avenir ? Donc ça, c'est vis-à-vis d'un enfant. Vis-à-vis de quelqu'un, vous pourrez dire « qu'est-ce que tu me proposes pour que ça se reproduise plus ?» Trois états du moi, en fait, dans chacun d'entre nous, on a un parent normatif et nourricier, un adulte, un enfant rebelle, libre ou soumis. Le parent normatif, c'est celui qui donne les règles. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, je suis pas d'accord avec ça, c'est celui qui cadre. Le parent nourricier, c'est celui qui va envelopper, qui va finalement être proche, qui va faire à votre place, qui va vouloir que vous soyez bien. Ensuite, vous avez l'adulte, vous avez l'enfant rebelle, ça c'est celui qui est jamais d'accord, il veut pas faire. L'enfant libre, c'est celui qui dit « moi, de toute manière, je ferai ce que j'aurai envie de faire » et qui vous écoute à peine dans votre demande. Et puis l'enfant soumis, c'est celui qui va faire, mais finalement, c'est quand même pas très ok pour lui. Et lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre, la personne en face de vous, elle a aussi ces trois états du moi à l'intérieur d'elle. Un parent normatif ou nourricier, un adulte, un enfant rebelle, libre ou soumis. À l'intérieur de ça, quand vous avez des échanges, si par exemple vous dites à votre enfant « tu n'as pas rangé ta chambre, c'est inadmissible, je voudrais que tu l'aies fait avant ce soir », vous êtes dans un rôle de parent normatif, vous donnez le cadre, c'est vous qui décidez, il y a des règles et l'autre doit le faire. Il y a de grandes chances qu'en face, la personne elle soit plutôt dans un enfant rebelle libre ou soumis. C'est-à-dire que s'il est enfant rebelle, il va vous dire « oui, enfin bon, moi je fais ce que je veux, je m'en fiche, si tu n'es pas content, c'est pareil ». Et il pourra éventuellement passer d'enfant rebelle à parent normatif en disant « mais finalement ta chambre elle est pas plus rangée que la mienne, toi aussi tu devrais bien ranger ta chambre ». On connaît tout ça avec les adolescents. Quand il passe dans le parent normatif et qu'il vous demande de ranger votre chambre aussi parce qu'il n'y a pas de raison, vous pouvez éventuellement vous remettre en enfant rebelle en disant « oui enfin bon c'est quand même pas la même chose, moi je suis une adulte, si ma chambre elle est pas rangée c'est pas grave, puis de toute manière c'est moi qui la range ». Tant que vous êtes dans ces relations-là de parent à enfant, c'est des relations qui ne peuvent pas fonctionner. Les seules relations qui fonctionnent, c'est des relations d'adulte à adulte. Alors comment on fait pour être dans des relations d'adulte à adulte ? Ben, c'est comme tout à l'heure en CNV, il faut être vraiment sur des faits, il faut être vraiment sur une partie très adulte de vous-même qui dit « ben voilà, je veux que tu ranges la maison parce que chacun y habite dans cette maison. Ce n'est pas à moi de ranger ta chambre, c'est à toi de ranger ta chambre puisque c'est toi qui la dérange. » Et là, vous êtes plus dans une relation d'adulte. Quand vous avez eu beaucoup de relations parent-enfant, enfant-parent, quand vous commencez à vous mettre dans un mode adulte, en face, ça marche pas très bien. En face, il n'a pas encore bien compris qu'en face, il faut redescendre dans un mode d'adulte. Mais si vous continuez à être comme ça dans des relations parfois extrêmement dépassionnées, hein, puisque ça vous demande d'avoir enlevé toute colère, ça vous demande d'être vraiment sur les faits, ça vous demande de ne pas vous énerver, ça demande vraiment dans la communication d'être vraiment un adulte, d'adulte à adulte. À ce moment-là, au bout d'un moment, s'il est dans un rôle de parent normatif, il va descendre en adulte, Et s'il est dans un mode d'enfant rebelle, il va passer en adulte. Mais il faut vraiment la pratiquer. Si demain vous commencez à être dans des modes de fonctionnement plus adultes, ça va pas être la baguette magique. C'est pas demain que la personne en face de vous va avoir des relations d'adulte. Mais vraiment, faites-moi confiance, si vous avez des relations d'adulte à adulte tout le temps, vous allez avoir en face des gens qui vont se mettre au diapason. Il y a une notion de neurone miroir qu'on a vu tout à l'heure. Vous donnez un exemple et l'autre le voit et finalement il commence à se comporter comme vous. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. Le triangle de Cartman. Alors celui-là, je l'aime bien. Certains le connaissent relativement bien. Je voulais quand même l'aborder, mais je voudrais l'aborder que sur du point de vue du sauveur. C'est quoi un triangle de Cartman? C'est quand vous êtes trois, qu'il y a une victime et un persécuteur. Ça, c'est déjà le truc de base. Il y a quelqu'un qui est victime d'un persécuteur qui le persécute. Et souvent, il vous demande l'un ou l'autre d'intervenir en sauveur. Donc ça, c'est aussi des choses qui arrivent assez fréquemment. Il y a des gens qui sont, j'allais dire, spécialisés de la position de sauveur, c'est-à-dire qui arrivent toujours en sauveur, qui, même quand on leur a pas demandé, veulent aider la victime à ce que le persécuteur l'embête plus et voudraient aller voir le persécuteur pour qu'il arrête de persécuter la victime. Vraiment, cette position de sauveur-là, elle est difficile parce que si vous intervenez alors que personne ne vous a rien demandé entre la victime et le persécuteur, la victime pourrait vous dire « mais moi, je t'ai rien demandé ». Et à ce moment-là, vous pourriez vous mettre en position de victime vis-à-vis de cette victime qui est devenue le persécuteur. C'est des positions qui changent. Vous êtes sauveur, mais parfois, vous serez peut-être le persécuteur en disant « bah si tu veux pas de mon aide, pas de souci, hein, débrouille-toi tout seul ». Vous allez passer en persécuteur et parfois, vous allez être persécuté par la victime qui vous a rien demandé. C'est systématiquement des choses à trois. Alors, on peut voir des choses à deux, mais c'est déjà moins présent. Regardez dans vos vies et dans vos échanges avec les autres si de temps en temps, vous ne faites pas des triangles de Cartman, si de temps en temps, vous n'êtes pas dans la position plutôt du sauveur. Et comment on fait pour en sortir? C'est relativement simple, même si c'est vite dit. Il faut arrêter d'être le sauveur. En fait, c'est comme un siège à trois pieds. Si vous retirez un des pieds, il tombe. Donc si vous n'êtes plus dans cette position de sauveur, moi c'est quelque chose que je faisais beaucoup il y a quelques années, d'être dans une position de sauveur, je voulais toujours aller sauver la victime et puis aller dire au persécuteur qu'il fallait vraiment s'arrêter. Vraiment, il faut que vous soyez droit dans vos bottes et chaque fois qu'une victime vient vous demander d'intervenir, de ne pas intervenir. Donc vous pouvez conseiller la victime, vous pouvez la faire parler, vous pouvez échanger avec cette personne en relation deux à deux, mais ne vous mettez pas dans des triangles victime, sauveur, persécuteur, parce que c'est des triangles qui peuvent durer des années et qui peuvent continuer. Et quand vous êtes dans un trio victime, sauveur, persécuteur dans la position de sauveur, souvent vous êtes le sauveur d'un autre triangle ailleurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise. Vous avez envie d'aider les gens, vous avez envie de les sauver. Il y a un côté un peu sauveur qui dort parmi certaines d'entre nous. Donc vraiment, l'idée, c'est de se rendre compte qu'on est en train de rentrer dans un triptyque de triangle de Cartman et de se dire bah, « je joue pas ». Cette fois-ci, j'ai décidé « je joue pas le rôle du sauveur ». Mon conseil bonus, faisons preuve de gratitude. Donc, il y a de nombreuses études qui ont prouvé que ça améliore l'humeur. On lutte contre le sentiment de solitude puisque la gratitude, ça crée un lien immatériel entre les différentes personnes. Ça diminue le taux de stress, ça diminue l'anxiété, ça augmente le système immunitaire, ça entretient un sentiment de bien-être durable et ça renforce les liens entre les personnes. Je passe mon temps à leur dire, faites vos trois gratitudes avant d'aller vous coucher le soir, vous verrez, vous aurez un bien-être durable assez rapidement. Donc c'est quoi faire preuve de gratitude? C'est à deux endroits, c'est de la gratitude vis-à-vis de vous, vous-même. Qu'est-ce que vous avez bien fait dans votre journée? Ça, c'est les trois gratitudes que je vous demande d'avoir pour vous avant de vous coucher. Et ensuite, dans toutes les relations que vous pouvez avoir les uns avec les autres, tenir la porte d'une grand-mère avec un sourire et la laisser passer, ça coûte rien. Et finalement, tous ces petits moments-là de gratitude où elle va vous dire « je vous remercie madame de m'avoir laissé passer », le voisin qui vous donne des œufs, « je vous remercie de m'avoir donné vos œufs », tous ces petits liens immatériels-là, ça renforce les liens de confiance entre les gens et ça nourrit un lien qui fait que la fois d'après, quand vous aurez des choses à leur dire qui peut-être seront moins ok que ce que vous avez dit jusque-là, ça sera beaucoup plus facile de le dire et beaucoup plus facile d'être dans cet échange de « j'essaye de te comprendre, tu essayes de me comprendre et on essaye de trouver une solution ensemble ». Vraiment, faites-vous du bien, donnez de la gratitude à tous les gens que vous voyez tout le temps. Moi, ça m'arrive de temps en temps quand je vais au drive, je vais chercher mes courses au drive. Il y a une petite dame qui m'apporte mes courses au drive Et qui fait la gueule toute la journée. Je sais pas ce qu'elle fait là. Je pense qu'elle s'ennuie. Et puis, elle a pas du tout la relation avec... Je ne désespère pas d'arriver à lui soutirer un petit sourire en me disant que peut-être j'arriverai à éclairer un peu sa journée. Donc j'hésite pas, je lui dis merci mille fois. Quand elle a fait preuve d'un truc en particulier, je lui demande comment ça va. Voilà, donc ayez de la gratitude pour les autres, essayez de transmettre ça parce que c'est des petits liens des uns aux autres qui font que la vie est bien plus belle et qui rendent les gens plus heureux. Et si on est plus heureux, par définition, on a tous des relations de meilleure qualité. Alors moi j'ai deux questions pour vous. Avec qui voulez-vous améliorer vos relations dès aujourd'hui? Je vous demande de réfléchir. Avec qui vous voulez améliorer vos relations? Parce que comment vous allez mettre en pratique? Alors vous verrez, avec moi c'est compliqué parce que je vais vous demander de tout mettre en pratique. Parce que je pense que apprendre, c'est pas suffisant. Ce qui est vraiment transcendant dans le fait d'apprendre, c'est de remettre en œuvre des choses derrière. Donc réfléchissez à qui... Avec qui vous voulez améliorer vos relations, avec qui c'est pas top, et quel est le premier petit pas que vous pourriez faire pour aller dans ce sens-là. Pourquoi les petits pas? Moi, je suis une vraie adepte des petits pas parce que je pense que quand on suit des objectifs, parfois ils sont presque inatteignables. Donc, ce que j'aime bien, c'est je me dis bon, je suis pas capable d'aller jusqu'au bout de cet objectif-là, alors je me dis qu'est-ce que je peux faire déjà pour faire un premier petit pas pour y aller. Et puis ensuite, une fois que vous l'aurez fait, c'est quoi le deuxième petit pas que je pourrais faire par rapport à ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre de ce que vous avez vu jusque-là pour que ça s'améliore demain? Est-ce que vous allez sourire? Est-ce que vous allez faire des compliments? Est-ce que vous allez lui faire des feedbacks positifs? Est-ce que vous allez décoller votre petit timbre que vous aviez d'hier et que vous n'aviez pas décollé? Réfléchissez à ce que vous allez pouvoir faire avec cette personne.